Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr, en partenariat avec la librairie Le Cyprès Jean de la Lune et le chroniqueur L'ado accro au livre. Alors, aujourd'hui encore, une émission hors studio, mais promis, ce sera la dernière. La rentrée littéraire se profile, les services presse arrivent, les lecteurs retrouvent le chemin des librairies, et d'ailleurs le 14 juin, c'était la journée des librairies indépendantes. Tous ces signes ne trompent pas, l'été des livres arrive. Vous savez, cette période de l'année où on s'autorise des livres qu'on ne lit pas d'habitude, des pavés, parce qu'on a le temps, des nouvelles, parce qu'on n'a pas le temps, du théâtre, pourquoi pas, et de la poésie. Oui, cette forme extraordinaire qu'on lit en savourant chaque mot et chaque espace sur la page, en faisant claquer chaque lettre tout en réfléchissant entre deux vers. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, c'est poésie. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le poète Florent Papin. Bonjour Florent.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à distance.
Merci à vous.
Alors, on a souvent l'image du poète éthéré, en dehors du réel. En fait, c'est tout le contraire de vous, parce que je vois que avec le dessinateur Étienne Appert, vous êtes l'auteur de la bande dessinée Léman, la crise et moi, adaptation du roman Ma petite entreprise a connu la crise de Nicolas Doucerin, paru aux éditions La Boîte à Bulles. C'est pas très éthéré tout ça, c'est plutôt les pieds sur terre et les mains dans le cambouis. Pas du tout le poète dans sa bulle et dans la lune. Vous êtes diplômé de l'ENS de Cachan et de Sciences Po, et vous avez aussi cofondé la revue d'art Prussian Blue, que vous avez dirigée pendant plusieurs années. Et oui, notre invité ne se repose pas sur ses lauriers. Vous êtes également chargé de mission au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et malgré toutes ces activités, vous avez publié votre premier recueil de poésie, Pollen, en 2014, aux éditions La Tête à l'envers, éditrice nivernaise, et un autre, Peine, en 2019, chez le même éditeur. Alors je précise que les deux sont illustrés de gravures de Renaud Aliran, qui sont parfaitement en écho avec le texte, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce dernier recueil, le deuxième, est en lice pour le Grand Prix de Poésie de l'Académie. Alors on vous souhaite bien évidemment le meilleur, et surtout, on a très envie d'en savoir plus sur ce recueil. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez débuté l'écriture de Peine ?
Alors, l'écriture de Peine, en fait, a procédé un peu de la même démarche qui avait été celle de l'écriture de Pollen, c'est-à-dire mon premier recueil. C'est-à-dire que l'envie d'écrire, en tout cas sous cette forme-là, m'est venue vraiment d'une rencontre esthétique avec le travail de Renaud Aliran. Donc, vous l'avez mentionné en introduction. Aliran est un grand graveur français, qui est également peintre, qui fait beaucoup d'encre et photographe par ailleurs. Mais il se trouve que son travail, tant pour Pollen que pour Peine, enfin son travail est multiple, si vous voulez. Mais disons que chaque recueil correspond à une période bien particulière de son œuvre et qui a suscité chez moi un désir d'écriture assez profond, assez immédiat. Et donc pour revenir à votre question sur Peine, il se trouve que à l'occasion d'une de mes visites de son atelier, Renaud m'a montré des œuvres qu'il venait nouvellement de créer et qu'il avait donc réalisé en gris de Peine. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le gris de Peine. En fait, c'est un type d'ancrage qui a été d'ailleurs conçu par un aquarelliste anglais de la fin du XVIIIe siècle, pour être tout à fait exact, qui s'appelait William Paine. Et en fait, le gris de Peine est un mélange de couleurs froides et minérales, un peu qui tend vers le gris bleu ardoise. Et devant la découverte et du travail de Renaud, et puis surtout de cette couleur, je me suis relancé dans une écriture poétique proche de la forme de celle qui était la mienne pour l'écriture de Pollen. Et voilà très concrètement comment est né en fait le recueil.
Oui, donc c'est une inspiration graphique qui a suscité en vous le désir d'écrire un texte poétique pour transmettre, peut-être pour transformer cette impression esthétique en mots.
Exactement. En fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que je n'ai pas du tout une approche disons, illustrative de l'écriture. Enfin, en tout cas, à l'échelle du dialogue, par exemple, avec le travail de Renaud Liran, il s'agit aucunement pour moi d'illustrer, ni même d'essayer nécessairement de traduire en mots ce que suscite chez moi son travail. C'est plus l'idée que, en fait, le travail de Renaud me dévoilait des territoires sensibles qui étaient vraiment très proches, enfin, dans lequel j'identifiais quelque chose qui était très profondément ancré en moi, en tout cas qui entrait en résonance avec mes propres sensibilités. Et donc, je pense que mon travail d'écriture consiste un peu justement à explorer, à creuser ces territoires de quelque chose un peu d'informel et en l'occurrence de très abstrait, hein, parce que le travail de Renaud là, sur lequel je m'appuie est un travail, n'est pas un travail figuratif, hein, c'est un vrai travail d'abstraction. Disons que j'ai tendance en fait à y voir un langage mais un formulé, et donc moi ma démarche c'est de partir du postulat qu'en fait le travail de Renaud est une forme d'écriture. Et finalement, moi, j'essaye de, non pas forcément de trouver les mots justes sur cette écriture-là, mais de lui donner une matérialité, un relief, de participer, d'accompagner cette, d'une certaine manière, la naissance d'un langage propre. Voilà. Et qui, je crois, doit vraiment être vu comme une interaction vraiment entre l'image, entre ce travail de gravure et ma propre écriture.
Est-ce que ça signifie que vous avez d'abord choisi les œuvres et que vous avez écrit par ailleurs après les avoir vues, ou bien est-ce que c'est simplement après avoir vu l'ensemble, vous n'en avez pas choisi certaines, mais simplement vous avez travaillé à partir de l'émotion générale ou de l'impression générale que l'ensemble vous avait donnée, ou est-ce que vous en avez choisi certaines?
Alors, il y a évidemment ces deux aspects. Après, originalement, tout est parti d'une œuvre qui s'appelle Nuit d'hiver, qui est une gravure qui date de 2007 de Renaud. Et en fait, c'est la découverte de cette œuvre au hasard d'une déambulation dans le quartier des Galeries du Marais, pour tout vous dire.
Oui.
Que voilà, je suis vraiment tombé en arrêt parce qu'à l'époque Renaud avait un atelier dans le Marais, donc qui l'ouvrait le week-end, donc il était possible de le rencontrer, qui nous explique son travail. Il avait sa presse dans l'atelier, et donc il exposait aussi quelques œuvres. Et donc je suis vraiment tombé en arrêt devant cette gravure, donc Médiver, qui était qu'il avait mise vraiment à la fenêtre de son atelier.
Ah oui.
J'ai voulu digérer ça, je suis repassé quelques semaines après pour voir si l'effet était toujours le même. Et ce qui était le cas, et donc j'ai pris mon courage à deux mains, et donc je suis entré dans l'atelier, parce que je n'avais pas parlé à Renaud la première fois. Et bref, et de nos échanges, et de la rencontre avec cette œuvre, vraiment, celle-ci spécifiquement, vraiment est née ce désir profond d'écriture poétique. Parce que vous mentionnez, là, en introduction, vous avez la gentillesse de mentionner le fait qu'effectivement, j'ai eu d'autres activités d'auteur, et en l'occurrence, j'ai fait un scénario de bande dessinée tiré d'un livre pour lequel j'avais prêté ma plume. Bon, bref. Mais et donc, l'écriture poétique, si vous voulez, j'avais toujours écrit sous des formes poétiques, mais comme on le fait un peu à l'adolescence, si vous voulez, sans m'y investir plus que ça. Et là, devant cette œuvre, mais il m'a paru évident le fait que je devais écrire sous forme poétique, enfin à moi d'inventer la langue, mais en tout cas voilà, c'est vraiment fait dans ce rencontre à l'œuvre. Et puis après, comme vous le dites, nécessairement en découvrant son travail, en le côtoyant, moi je n'ai plus nécessairement eu besoin d'avoir l'appui d'une œuvre particulière, même si certaines m'ont plus inspiré que d'autres. Et donc là, j'ai essayé justement de travailler ces résonances, ces correspondances qu'elles pouvaient m'inspirer. Mais pour l'ensemble, par exemple, c'est le cas du travail de Renaud autour du Grippen. Si vous voulez, moi, de son travail, j'avais vu 4 ou 5 œuvres seulement. Enfin, d'ailleurs, je n'en connais que 4 ou 5. Voilà. Mais mon recueil compte évidemment plus de poésie. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, il y a des œuvres qui ont un peu délimité, comme je vous le disais, un peu un territoire sensible. Et voilà. Et puis, après, à charge pour moi d'évoluer en son sein.
Oui, d'une certaine manière, c'est une révélation d'une espèce de faille dans le réel que vous n'aviez pas remarqué et que vous avez eu plaisir à emprunter, en fait, quelque part.
Ah, tout à fait.
Et justement, vous parliez de vos autres expériences poétiques précédentes. Donc celle-ci est totalement nouvelle, originale et très personnelle et profonde. Mais dans quelles circonstances est-ce que vous aviez écrit votre premier texte poétique, votre première expérience de texte poétique? Donc c'était certainement bien avant.
Oui, tout à fait. C'était. Oh, là, vous.
C'est trop loin.
Oui, disons que je ne saurais vous le dater précisément, oui, mais c'est clairement... Écoute, je dis à l'époque adolescente, non, je pense que même dans l'enfance, il m'arrivait d'écrire des petits textes. Oui, je me souviens, je me revois, bien sûr, mais le soir dans ma chambre d'enfant et d'adolescent, soit sur mon lit ou à mon bureau, essayer voilà, de coucher sur le papier. Mais enfin, vous l'imaginez de manière assez scolaire, c'est-à-dire que, avec le souci de la rime, de la bonne métrique. Bon, voilà, quelque chose dont je me suis beaucoup écarté depuis.
Oui, c'est sûr. Quand on lit peine.
Oui, voilà, ça m'accompagne depuis un moment, et avec une autre composante qui est le fait que moi je suis très sensible, par exemple, à la musique et notamment à la chanson. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aussi façonné mon rapport à la langue. Et donc, au fait, à l'adolescence, j'écrivais pas mal de chansons. Voilà, que je jouais, que je chantais.
Oui.
Donc voilà. Donc pour dire que pour moi c'était assez indistinct. Ce travail d'écriture valait à la fois pour des textes poétiques, mais aussi pour des textes destinés à être fredonnés.
Oui, donc il y avait quand même un terrain propice depuis très longtemps, avant que vous ne tombiez en arrêt devant la gravure de Renaud à l'Iran. La graine est tombée dans un terrain très fertile, je pense. Quand on lit justement peine, en effet, on n'est pas frappé par les rimes, comme vous le disiez. En revanche, on est frappé par la puissance d'évocation des images, de leur connotation, qui me semble être vraiment, enfin, quand on lit vos deux recueils d'ailleurs, au cœur de votre poésie, comment est-ce que vous choisissez et que vous travaillez ces images et leurs idées?
Alors, d'une part, je suis très sensible au fait que vous considériez que ma langue, oui, comporte un certain nombre d'images, enfin en tout cas qu'elle active ce ressort-là. Alors, travailler l'image, en fait... Il faut en revenir peut-être à ma méthode d'écriture hein, pour répondre à votre question, qui est que disons, je n'ai pas le sentiment de travailler l'image. C'est-à-dire que pour moi, l'image procède vraiment du travail de la langue, mais de la langue même dans son sens plus élémentaire, qui est presque celui du son, quoi, à l'échelle du matériau presque phonique. Je pense que beaucoup d'images, ou de constructions, en fait, me sont venues vraiment dans des jeux de télescopage sémantique, dans des jeux de construction et de déconstruction un peu grammaticale, des fois, qui fait que l'image n'avait pas un objet bien délimité. Et je pense que vraiment, elle est venue de ces jeux de correspondance entre, peut-être entre sonorité, idée, mais qui m'échappe dans une grande mesure, c'est-à-dire que beaucoup de choses me viennent de phrases qui surgissent à mon oreille. Voilà, je pense par exemple le premier poème du recueil Peine, si vous voulez le poème débute par chaque heure retenait sa musique. Voilà, c'est des choses qui pour moi sont certainement, enfin j'imagine, voilà, riches en images, en tout cas qui une certaine densité de ce point de vue-là. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Enfin, au détour, cette phrase a surgi et voilà. Et de là, j'ai essayé, de maintenir, de perpétuer ce jeu un peu, cet écho, cette résonance. Et c'est peut-être un peu par ça, par cette méthode-là, que se construit l'ensemble du poème et donc que surgissent de nouvelles images, si vous voulez, à nouveau par des jeux un peu de résonance aussi, de consonance, voilà, et puis après avec des jeux de correspondance aussi thématiques, que j'anticipe peut-être des questions que vous alliez me poser, mais c'est vrai qu'il y a des univers qui, si vous voulez, sont plus inspirants que d'autres pour moi, et je pense notamment à l'univers minéral, à l'univers végétal, et donc quand je dis que les images peuvent naître de la langue, elles tiennent aussi, je pense qu'il peut y avoir des images créées par le seul fait d'utiliser parfois un vocable ou des termes minéraux un peu déconcertants, et du coup la surprise naît de l'usage de mots qui sont pas tout nécessairement habituels en poésie, mais en tout cas dans le langage courant. Je pense aussi à créer ce, enfin, est vraiment producteur de d'image ou de sens.
Et est-ce que vous avez eu l'impression, vous dites que le premier vers, par exemple, du premier poème de Penn, vous est arrivé un peu... est-ce que vous avez le sentiment, comme certains poètes, que le premier vers est donné par les dieux?
Oui, non. non, parce que alors pour la peine, je me sens assez aux antipodes de ces démarches-là. C'est que je crois pas... non, pour moi, c'est de la même manière que il y a des expressions qui viennent qui se trouvent peut-être que j'ai juste fait une liaison entre deux mots que je venais d'entendre à la radio que je venais de lire voilà donc c'est juste je crois pas mais par contre non c'est moi ce qui m'intéresse c'est quand à l'échelle de tous de toutes les phrases ou toutes les formules qui peuvent passer dans la tête à un instant T c'est plus voilà, j'essaie de réagir, en tout cas à celles qui me paraissent avoir une charge poétique intéressante.
Ce qui vous donne envie d'écrire est peut-être plutôt, comme par exemple avec l'œuvre de Renaud Aliran, la vision d'un autre artiste ou la vision de quelqu'un sur le réel, plutôt que le réel lui-même.
Alors ça, c'est très très intéressant ce que vous dites, parce que je n'avais pas pensé les choses en ce terme. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans, qui moi me fait écho tout de suite à autre chose. Je vais vous dire, et ça éclairera aussi votre questionnement. Je crois que fondamentalement, la langue est une économie, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait une langue qui ne se nourrisse pas d'une autre langue et réciproquement. Donc ça peut être tout à fait vrai, parce que je vous disais tout à l'heure que de mon point de vue, Renaud Aliran, en fait... créer une forme d'écriture à travers son usage, je sais pas, de motifs géométriques, formels ou au contraire complètement déconstruits. Donc nécessairement une langue et qu'il y a bien quelque chose de cet ordre, de la rencontre et donc du coup d'une forme de dialogue. Et il est fort probable qu'effectivement, peut-être que j'ai besoin de cette médiation de l'autre aussi, en tout cas d'un passage par l'autre pour trouver une langue qui est au plus juste et au plus près moi de mes sensibilités, de mes préoccupations, de mon authenticité créatrice.
Oui, donc c'est un échange en fait. Ça se nourrit mutuellement.
Je pense, c'est vrai. Ouais.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale avant de poursuivre l'émission. Donc, une petite pause avec ce morceau, Você Abuso, dans la version de Vinicius de Moraes. On va écouter donc un petit peu de brésilien aujourd'hui dans la Nièvre.
O meu amor, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim. Não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Você abusou. Tirou
Vous êtes bien sur Bac FM dans l'émission Les Voix du Livre, où je reçois aujourd'hui Florent Papin, poète et auteur du recueil Peine. Et nous écoutions Vossé Abouzo. Alors, Florent, pourquoi avoir choisi ce morceau?
Alors, il y a d'abord un clin d'œil tout personnel. Ma compagne est brésilienne.
Ah oui.
La musique brésilienne a une importance assez centrale désormais dans ma vie. Et puis par ailleurs, Vossé Abouzo, donc, il est écrit par Vinicius de Moraes, donc il y a les plus grands paroliers du XXe siècle au Brésil, mais qui est également un auteur de théâtre, de poésie, enfin, bon, vraiment quelqu'un d'assez complet. Voilà, je le tiens un peu comme un modèle de vie.
Ah oui?
Oui, bah, un modèle de vie, enfin, non, parce qu'il a une vie assez dissolue.
Pas en tout, mais un modèle sur certains aspects.
Non, mais sur sa créativité foisonnante et le fait que c'est quelqu'un qui, justement, a toujours, comment dire, fait des allers-retours entre l'écriture, peut-être plus, entre guillemets, légitime, qui serait celle des... l'écriture littéraire d'ouvrages de théâtre et de poésie, comme je vous disais, mm-hmm. et une écriture populaire qui est celle de la chanson, hein, la musique populaire brésilienne. Et ça, moi, c'est si vous voulez, c'est, pour moi, c'est un rapport à la langue et puis plus généralement une position d'homme de lettres, d'homme d'écriture dont moi je suis absolument admiratif, quoi.
Oui, effectivement. Alors, vous êtes également rédacteur, vous travaillez sur de nombreux types de textes. Est-ce que ce travail apporte quelque chose à votre poésie ou à votre perception du mot?
Oui, mais alors, ça le fait en creux, vraiment par la négative.
Ah!
Oui, non, je m'explique. Pour moi, je me méfie énormément. Alors, vous allez penser que je suis un garçon assez schizophrénique.
Pas forcément.
Je gagne ma vie en écrivant pour les autres, hein. Je suis plume.
Oui, je compatis, oui.
Donc, vous voyez, et en fait, très sincèrement, non, je me méfie grandement de télescopage, en fait, des activités d'écriture, puisque bon, il est tentant d'y trouver des points de correspondance, mais si vous voulez, moi, à la longue et en jugeant sur acte, je pense vraiment que c'est de nature un peu à... Disons que la langue de la vie professionnelle, qui est une langue très instrumentale, très fonctionnelle, finit vraiment par... Enfin, en tout cas, risque de contaminer une langue qui est vraiment travaillée et recherchée pour elle-même. Et je me rends compte que, vraiment, moi, j'essaie de plus en plus de créer des remparts entre ces deux activités de ma vie, que je trouve que la langue du quotidien, mais qui est en plus une langue, en ce qui me concerne, moi je fais des textes plus d'ordre institutionnel, ça est vraiment de nature à mon avis, à vraiment appauvrir le travail de création. Mais bon, c'est un point de vue tout à fait personnel, hein. Je pense que les gens arrivent à très bien gérer l'équilibre, mais moi j'ai vraiment l'impression de faire un grand écart et de devoir complètement changer de registre et presque de mode de pensée, de mode de fonctionnement.
Ah oui, donc vous prenez une autre de vos personnalités pour écrire autre chose.
Oui.
Vous changez. Ah oui, d'accord. Alors, quels sont justement pour vous les, on va revenir à l'écriture poétique, vraiment celle qui nous intéresse à présent. Quelles sont pour vous les difficultés de l'écriture poétique, mais aussi les plaisirs qu'elle apporte?
Ah, si vous voulez bien, je vais commencer par les plaisirs.
Bien sûr.
Quoi qu'il y ait, on est censé garder le meilleur pour la fin.
Ouais, ça dépend, on fait ce qu'on veut. Hein.
Non, parce que je dis ça enfin, pour vous faire sourire, mais c'est aussi parce que fondamentalement, si vous me parlez d'écriture, moi, je pense d'abord et avant tout au plaisir que ça occasionne. C'est-à-dire que, et en l'occurrence, je pense que c'est surtout l'expérience d'une liberté radicale. Je dirais pas une liberté absolue, puisque on fait pas non plus n'importe quoi avec la langue, mais radical dans le sens où on peut vraiment pousser loin et s'affranchir vraiment, enfin, très très fortement de ce que peuvent être les prescriptions conventionnelles, disons. de la langue de tous les jours, ou d'une langue, on parlait tout à l'heure de la langue du monde professionnel, ça, d'une langue très fonctionnelle. Et moi, la poésie, c'est vraiment ça que ça m'apporte, c'est que c'est quand même un bonheur perpétuellement renouvelé si vous voulez, de malaxer la matière. Moi, j'ai vraiment une image très, au fond, très matérialiste de l'écriture, dans le sens où je le vois vraiment comme un matériau brut. Enfin, en tout cas, que j'aime travailler le plus brut possible. Je crois que c'est aussi pour ça que je fais essentiellement de la poésie. Et voilà, quoi. L'écriture poétique, ça permet de malaxer la langue, de la sculpter, enfin, d'en faire une quantité infinie de choses. Ce que ne permet évidemment pas, à mon avis, des écritures qui obéissent à des exigences, je sais pas, logiques, enfin, démonstratives, argumentatives, quoi.
C'est pour cette raison que vous avez choisi la poésie?
Alors, je mentirais en disant que c'est très bon, ou disons que ce serait une jolie construction, mais rétrospective, parce qu'en fait, non, c'est plutôt un constat que j'ai tiré du fait d'écrire, tout simplement. C'est en écrivant et avec le temps, hein, je ne dis pas que c'est quelque chose qui m'est apparu d'évidence tout de suite, et d'ailleurs, mon rapport à l'écriture continuait à évoluer, et c'est que j'ai, au contraire, plus j'avance en expérience, en écriture, plus j'ai le sentiment que de nouvelles potentialités d'écriture s'ouvrent à moi, de nouveaux rapports à la langue, d'autres visages aussi, ou d'autres aspects de ce matériau dont je parle. Et ça c'est vraiment formidable. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont j'étais assez étranger au tout début de mes exercices d'écriture.
Ah oui, donc c'est venu au fur et à mesure, progressivement.
Ah oui, et qui s'affirme de plus en plus.
Vous avez le sentiment que finalement, les plaisirs augmentent avec l'exploration en profondeur de ce terrain, de ce territoire.
Absolument, indéniablement.
Vous avez eu l'impression de davantage creuser entre, par exemple, entre Pollen et Penn, parce qu'il y a quand même 5 ans d'écart entre les deux.
Non, j'ai tendance à croire que, une fois de plus, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de formuler les choses, mais Penn me paraît une écriture plus mûre, plus aboutie, mais peut-être parce qu'elle a justement un peu plus conscience de ses possibilités. Je dirais que Pollen avait quelque chose d'un peu plus instinctif, enfin intuitif, disons, mais de plus immédiat, de plus pas relâché, parce que je crois que c'est une écriture assez tenue aussi. Oui. Mais les choses me venaient peut-être un peu plus spontanément, ou en tout cas, Penn, je crois que c'est une langue que j'ai un peu plus travaillée, et surtout dans laquelle j'ai réussi à identifier peut-être un peu plus, et jamais suffisamment d'ailleurs, hein, mais en tout cas j'ai identifié quand même un peu plus que pour Pollen, ce que peuvent être des choses trappes en poésie, quoi. Et en l'occurrence, des choses dont on n'est jamais à l'abri, mais qui sont des formes de coquetterie.
Vous pensez à quoi, par exemple, des choses que vous évitez maintenant?
Il y a quelque chose vraiment qui m'est pénible, tant vis-à-vis de mon écriture que... Enfin, en tout cas, j'essaie de le corriger en amont, et je ne l'éprouve plus une fois le livre publié. Mm-hmm. Mais il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'est très désagréable, c'est en lisant un texte de voir la personne en train d'écrire, si vous voulez, enfin de voir le texte se faire, d'avoir le sentiment que il y a une forme de, que le texte en soi comporte son propre le propre regard sur lui-même. Enfin, souvent je trouve que c'est des gages assez d'inauthenticité, enfin c'est des marques d'inauthenticité dans le rapport à l'écriture. Et moi, il y a quelque chose qui me, même dans des textes parfois, enfin qui me mm-hmm. tombe sous la main. C'est vraiment quelque chose que par rapport auquel je suis très très vigilant. Non, sincèrement, je pense qu'il a, il reste des choses de cet ordre, mais il se trouve quand même qu'en fait je travaille donc à la fois les choses que je vous parlais tout à l'heure, que souvent un poème va naître d'une formule, d'une expression qui m'apparaît comme ça. Mais après, c'est quand même beaucoup de travail. Enfin, je retravaille quand même beaucoup beaucoup mes textes. Mm-hmm. C'est-à-dire, je réécris. Et donc, je crois qu'à la force de réécriture, et puis on parlait un peu d'expérience tout à l'heure, je vois un peu plus spontanément ce qui peut m'apparaître, voilà, comme des choses un peu redoutantes pour moi. Donc, je pense avoir réussi à en évacuer suffisamment en amont pour que ça ne se perçoive pas trop.
Non, je vous rassure, c'est pas l'impression qu'on retient, c'est vraiment la puissance d'évocation, les images, un univers justement qui s'ouvre, qui se ferme. Enfin, c'est très vivant en fait. Il y a un sentiment. Vous savez, un peu comme comme un mouvement de pulsation en fait, pas forcément régulier d'ailleurs. Et c'est ça qui rend la chose encore plus vivante. Comment est-ce que vous avez connu les éditions La Tête à l'envers?
Alors, vous allez voir décidément que c'est un personnage absolument central hein, dans mon aventure poétique, mais c'est une fois de plus Renaud Aliran qui était à la manœuvre, tout simplement parce que Renaud avait illustré un certain nombre de livres qui avaient été publiés à La Tête à l'envers. Et donc, au moment où est venue l'idée qu'on pouvait peut-être aussi faire un ouvrage ensemble, bah, très simplement, il s'est dit, je vais contacter aussi d'autres éditeurs, mais il a fait, mais écoute, je vais le proposer à Dominique, donc Dominique Sierra, hein, la fondatrice des éditions La Tête à l'envers, et puis on va voir ce qu'elle en pense, et puis je crois que Dominique a favorablement reçu mon premier manuscrit. On s'est rencontrés lors d'un salon de poésie à Paris, à l'espace des Blancs-Manteaux, et voilà, je crois que le contact est passé, parce qu'il y a aussi une dimension humaine, hein. Ça par contre Dominique le dirait bien mieux que moi, hein. Mais je pense qu'il est aussi important, non, mais entre auteur et éditeur, de sentir qu'il y a aussi une complicité, en tout cas une proximité, en tout cas une sympathie, une estime mutuelle, quoi.
Oui, une confiance, un peu de connivence.
Bah, c'est important parce qu'après c'est des parce qu'être éditeur, même chose, je m'écarte de mon terrain, mais je pense être éditeur c'est aussi organiser des rencontres, des lectures, créer ce type d'occasion-là, d'opportunité. Et il faut plutôt être en confiance aussi avec la personne, et puis il faut avoir envie de défendre la personne, de porter son travail, voilà. Bon, je pense qu'il y a des paramètres comme ça assez subjectifs, affectifs, qui entrent en ligne de compte.
Oui, ça compte, ça c'est sûr. Hein. Alors justement aujourd'hui, quelle est votre actualité littéraire?
Alors mon actualité, disons que j'ai beaucoup écrit là, d'ailleurs durant le confinement, comme beaucoup, je pense, parce que j'avais des conditions qui me permettaient d'avoir l'esprit assez libre pour le faire, donc c'était très confortable de ce point de vue-là. Et donc je travaille, voilà, ce sera peut-être un troisième, un quatrième recueil. Voilà, j'ai d'autres choses en cours aussi qui ne sont pas des projets immédiatement poétiques, enfin, peut-être qui ont une charge poétique, mais qui sont plus des choses un peu plus narratives. Et voilà, donc c'est un travail en progression, en train de se faire, mais je pense avoir bientôt la possibilité de proposer quelque chose à soit Dominique ou peut-être d'autres éditeurs, parce que je pense que là j'explore un peu d'autres registres d'écriture.
Quel registre d'écriture vous explorez?
Une langue, je change un peu, disons une langue. Vous parliez tout à l'heure du rapport à la réalité. Là, parce que le temps a passé aussi. Puis j'éprouve peut-être un peu plus à parler, un peu plus l'envie là, justement d'être en interaction avec le contexte, avec mon époque, mon environnement géographique, spirituel, tout ça. Donc des choses qui sont un peu plus là ancrées justement et qui participent plus d'une forme d'observation. Pas nécessairement du quotidien au sens aussi, même du quotidien qui s'offre. Enfin voilà, essayer de chercher peut-être un peu plus d'une poésie peut-être un peu plus prosaïque, si vous voulez, qui recèle des choses du quotidien, des choses comme ça. Ah oui. Et ça, c'est nouveau pour moi, mais très stimulant, quoi.
Un nouveau territoire, un nouveau terrain de sensibilité.
J'avais besoin aussi de renouveler mon rapport à l'écriture. C'est pas une démarche intellectuelle, hein. Ça s'est fait assez spontanément, peu à peu, je me suis mis aussi par la rencontre. Vous parliez tout à l'heure aussi du fait de rencontrer le travail d'autres artistes. Ça, c'est vrai que c'est aussi la lecture de poètes qui m'ont paru parler, enfin trouver une langue extrêmement à propos pour évoquer par exemple des sujets politiques ou sociaux, tout ça, qui me paraît très très délicat. Mais j'ai vraiment eu des choses assez convaincantes, et Voilà, je vais un peu dans ces directions, puis on verra ce que ça donnera.
Donc on a hâte de voir le résultat. Alors, merci encore, Florent Papin, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous, c'était très aimable de votre part.
Ça nous a fait très plaisir et j'invite tous les auditeurs à glisser cet été dans leur valise, pollen ou peine, pour profiter un petit peu du bonheur des mots. Voilà, donc les Voix du Livre vous donnent rendez-vous en septembre prochain. D'ici là, lisez. Lisez de tout, abondamment. Quelle meilleure idée pour se faire plaisir. Et les amoureux des livres et de l'écriture pourront aussi retrouver des actualités sur les ateliers d'écriture de l'été sur le site de memorialiste.fr. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.